Je vous propose de prier ensemble. Je vais prier juste avant. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur pour tous les gens que nous pouvons rencontrer, pour toutes les personnes que vers qui tu as peut-être un projet Seigneur et tu nous envoies vers eux. On voudrait te remercier Seigneur pour ces personnes et on voudrait te prier de nous donner la sagesse, l'amour mais aussi la connaissance Seigneur pour en fonction des situations pouvoir répondre aux personnes. Je te prie, Seigneur, que ce soir, ce dont nous allons parler, ce soit quelque chose que tu agrées, Seigneur, et que ce que nous en retenions, ce soit ce que toi tu souhaites, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu nous permets d'apprendre et de découvrir à travers toi. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, voilà, donc je vais essayer de nous guider tous ensemble sur le thème « Comment aborder les musulmans ». Alors il y a peut-être des comme c'est un petit peu la première fois que je prends le micro et que j'aborde un thème, il y a peut-être probablement même des petites erreurs, donc vous pouvez m'interrompre s'il y a un truc qui vous choque, n'hésitez pas. Je vais d'abord vous présenter un petit peu pour moi les croyances les plus communes qu'ont les musulmans. Et ensuite je vais vous suggérer quelques réflexions, quelques remarques que les musulmans ont et quelles sont les réponses possibles qui peuvent nous aider. On continue. Alors, les croyances des musulmans. Donc, ce qui est très important à comprendre en premier lieu, c'est leur croyance et adoration en un seul Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important parce que ils ont justement un gros problème avec la Trinité. Donc, pour eux, Dieu, il est séparé de l'homme, il est Dieu, il est omniscient, omnipotent, donc il sait vraiment toute chose, il sait ce qui est passé, il sait ce qui est futur, il est parfait, mais il est vraiment unique, il est Dieu. Ça, c'est important à comprendre. Alors, chose intéressante liée à ça, ils croient dans le jugement dernier. Donc, ils pensent qu'effectivement, ils vont être ressuscités et apparaître devant Dieu pour être jugés. Seulement, quand je vais en parler un petit peu après, mais la manière dont ils sont jugés n'est pas du tout la même que la nôtre, puisque selon eux, ils sont jugés à travers les œuvres. Ça, je vais en reparler un peu après. Donc, pour eux, par exemple, si vous leur parlez de Jésus qui revient pour le jugement, ils sont d'accord. C'est pas quelque chose qui va forcément les choquer. Alors, croyance dans la prédestination divine et dans le libre arbitre de l'homme, donc un peu comme je l'ai dit, les attributs de Dieu, Dieu sait tout, il sait ce qui est passé, il sait ce qui est futur. Ils pensent que l'homme, par contre, a un libre arbitre, donc ils ne croient forcément pas en l'élection de l'homme par rapport à son salut. C'est-à-dire que si un musulman peut acquérir son salut, bon, bah c'est parce que il a le libre arbitre, et c'est à lui de faire de bonnes actions, quoi. Ce n'est pas Dieu qui choisit la personne. Par rapport à Adam, alors ça aussi c'est important à comprendre. La chute, pour eux, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que Adam a péché, mais il a été pardonné. Donc, pour eux, la création, la chute, ils vont pas croire en ça. Et de ce fait, ils vont croire que l'homme est pur à la naissance. C'est-à-dire que c'est comme si le bébé, il vient au monde avec, je sais pas moi, une note de 10 sur 20. Et c'est à lui d'essayer de rester au moins au-dessus de 10, voire d'avoir plus que 10 sur 20, 15 sur 20, etc. En faisant des bonnes actions. Je pense que comme il y a une, je saurais pas dire, mais non, je pense que c'est vraiment, je pense que c'est 10 sur 20 parce que comme eux, ils ont l'image de la balance. Ouais, et en fait, 11 sur 20 à ce moment-là. 11 sur 20, ouais. Au moins 11 sur 20. Mais il faut que la balance penche, la balance penche, merci, du bon côté pour que le musulman puisse acquérir son salut. Alors, on peut continuer. Alors, ouais, il y a aussi un aspect qui est un peu particulier. C'est, oui. Oh, bah, oui, tu peux revenir si ça te dérange pas, non? Alors, effectivement, pour un musulman, Dieu peut pardonner juste comme ça. Ça veut dire que si, par exemple, en fait, pour le problème du péché pour un musulman, si il y a en fait il y a des péchés qui où le musulman peut demander simplement à Dieu de pardonner, et il peut avoir l'espoir d'être pardonné juste comme ça, si je me trompe pas dans ce que je vous dis. Notamment, si par exemple un musulman fait du mal à quelqu'un, si ce quelqu'un ne veut pas lui pardonner, la personne a l'espoir que Dieu lui pardonne. Mais ça l'embête quand même, parce que pour un musulman, il est important que la personne qui l'a offensé lui pardonne en retour. Pour les livres, alors souvent les musulmans, mais je vais en parler après, ils nous disent, oui, nous on a le Coran, c'est la version finale, etc. Nous on croit dans les 5 livres. Alors j'ai essayé de vous détailler les 5 livres. Donc je vous ai mis ça avec la, pour certains, la manière de prononcer arabe, mais bon, c'est pas, voilà. Donc ils croient en la Torah. La Torah juive. Bon, après, il y en a certains qui vont vous dire qu'elle a été falsifiée, la Torah. Mais sinon, en général, ils sont d'accord avec la Torah, les prophètes. Pour eux, ils croient dans tous les messagers qui ont été envoyés. Vous avez donc les psaumes de David, deuxième livre. Les écrits des prophètes. Alors, les écrits des prophètes, c'est les écrits de Moïse et d'Abraham. Donc, j'ai regardé sur plusieurs sites, mais j'ai pas trop compris en quoi ça consistait exactement. Même sur certains sites de l'islam, il y a que 4 livres, d'ailleurs. Donc, il y a même pas les écrits des prophètes. Donc, je sais pas quoi vous dire là-dessus, mais je l'ai noté quand même, parce qu'il y en a qui vont vous parler des 5 livres. Vous avez donc, en troisième livre, les psaumes de David. Ça, c'est intéressant, parce qu'il y a quelques versets quand même à utiliser, qu'on pourra utiliser pour leur parler, pour les toucher. L'Injil, donc pour eux, donc c'est l'Évangile. Seulement, les sourates qu'ils ont de l'Injil, il y a quand même des grosses modifications. Il y a même Jésus qui, dans l'Injil coranique, qui se dit non, moi je suis pas le Messie, etc. Enfin, j'ai plus la sourate en tête, mais j'ai vu. Ah oui, pardon, excusez-moi. Les sourates, c'est comme les versets. Hein, c'est la manière de découper en fait coranique. C'est un chapitre ? Ah pardon, merci de me corriger. Vous avez aussi le donc ouais ça c'est important, c'est pour ça qu'en général si vous avez un évangile, même si la personne vous dit oui j'ai lu l'Injil, essayez quand même de lui permettre de qu'il puisse découvrir l'évangile qu'on a nous, parce que dedans ça va pas être la même version que ce qu'ils ont eux. Et enfin je parle de la Sunna. Du Coran, donc le Coran, je pense que vous avez un petit peu entendu parler. Donc une révélation de Gabriel à Mohammed, dedans il y a toute une loi avec toutes les choses à faire et à ne pas faire. Donc si un musulman par exemple ne respecte pas la loi qui est dans le Coran, il commet un péché. Donc pour eux, ce qui est dans le Coran, ça va un petit peu confirmer tout ce qu'il y a eu avant, et pour eux c'est le livre le plus important. Alors ça, j'ai eu un contact aujourd'hui qui me l'a confirmé en sans même que je lui pose la question. Il m'a dit oui, non, on a le Coran, c'est la dernière mise à jour, c'est la version. Enfin voilà. Donc pour eux le Coran est plus important que les autres livres. Et j'ai mentionné la Sunna. Alors la Sunna en fait ce sont les récits, les paroles de Mohammed de son vivant. Qui ont constitué comme une sorte de parole sainte qui vient compléter. Donc dans la Sunna, vous avez, je crois, ça s'appelle les hadiths, mais je sais pas comment c'est découpé, mais c'est, je sais pas si c'est des chapitres comme pour les sourates, mais je sais plus trop. Mais dans la Sunna, vous allez avoir les fameuses hadiths, si un jour vous entendez parler de ça. Donc ce sont des paroles de Mohammed qui sont considérées comme saintes. Voilà. Alors voilà, effectivement, pour les musulmans qui connaissent bien le Coran, pour eux, forcément, les juifs et les chrétiens ont falsifié la Bible, donc la Torah et l'Évangile. Parce qu'effectivement, ils vont avoir un problème avec, lorsqu'on va leur lire la Bible, ils vont avoir un problème par rapport à certains versets qui vont être contradictoires avec leurs croyances. Donc pour eux, forcément, Jésus, c'est un prophète important. Ils reconnaissent que Jésus n'a pas commis de péché, hein, pour la plupart, ils sont d'accord avec ça, mais pour eux, c'est un messager comme un autre, enfin, en tout cas, pas plus important que les autres, et en tout cas, Mohammed, pour eux, c'est vraiment leur prophète, le prophète le plus important, puisque c'est le dernier pour eux, prophète. Et beaucoup de musulmans aussi vont forcément ne pas croire que Jésus est mort sur la croix. Parce que pour eux, c'est un prophète envoyé de Dieu, donc Dieu n'a pas pu le laisser mourir. C'est quelqu'un qui a pris sa place. Alors, il y en a qui pensent que c'est Judas. Bon, il y a différentes croyances là-dessus. Ok. Je pense qu'on peut passer si ça va pour tout le monde. Alors, les cinq piliers de l'islam, ça je trouve aussi important d'en parler, c'est on va dire les cinq points importants pour un musulman à suivre. Donc la confession de foi, ça va être de dire que Allah est le seul Dieu et Mohammed est son prophète. Donc c'est une reconnaissance de foi en quelque sorte, une confession de foi. La prière rituelle, donc s'il y a un nombre de prières à respecter par jour. Avec tout un rituel à mettre en place, notamment l'orientation lorsqu'on prie. C'est des prières où, alors je sais plus exactement comment, ça je reconnais que je sais pas si je l'ai mis dans mes notes, mais dans la prière musulmane, je sais pas exactement comment ils s'adressent à Dieu. Si, ça y est, ça me revient. Ils lisent en général, ils récitent par cœur des versets coraniques. Peut-être aussi d'autres parties de la prière, je sais pas si, non, si personne ne sait. L'aumône, donc c'est alors une manière pour eux de se dénuer un petit peu de tout ce qui est avarice, jalousie et cultiver un esprit de partage. Donc c'est obligatoire, enfin en tout cas ça fait partie des cinq piliers de l'islam et c'est important pour eux. Alors ces cinq piliers, excusez-moi, je l'ai pas dit, mais ils vont contribuer pour le musulman à gagner son salut. C'est ça qui c'est en observant les cinq piliers de l'islam que le musulman va se rapprocher, on va dire, de ce qu'il estime être les bonnes choses. Donc pratiquer le jeûne, là c'est une manière aussi de, alors c'est une manière plutôt pour demander pardon, pour se purifier. Oui. Oui, c'est ça. Je l'ai pas mis, je sais pas pourquoi. Oui, j'aurais pu le mettre, mais c'est le Ramadan. Alors ils expliquent que c'est le 9e mois lunaire de l'année. Enfin bref, ça dure pendant un mois et c'est une manière pour eux donc de demander pardon pour leurs péchés, de se purifier, on va dire, de tout ce qui est la tentation et autres. Et enfin, le pèlerinage à la Mecque, ça va être, alors pour ceux qui peuvent, physiquement et financièrement parlant, aller en pèlerinage à la Mecque. Pour anecdote, il faut savoir que si un musulman meurt sur la route du pèlerinage, il est certain d'aller au paradis. C'est partie des petites choses comme ça. On peut continuer. Alors maintenant, je vais vous faire travailler un peu. Donc, alors, parmi les remarques fréquentes qu'on peut avoir, un musulman peut nous dire, voilà, mais de toute façon, vous les chrétiens et nous les musulmans, mais on croit dans le même Dieu, tout va très bien, etc. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de remarques? Ouais. Et qu'est-ce que vous auriez envie de, enfin, qu'est-ce que vous leur répondez en général là-dessus? Ouais, Christophe. Alors ça, ouais. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Faut connaître la sourate par cœur, mais. Mais non, non, mais non, non, mais j'aime beaucoup la. Ouais, c'est. Mon avis, je pense qu'effectivement, ça oriente tout de suite la discussion vers les valeurs morales, vers Jésus, vers qu'est-ce que nous enseigne Jésus. C'est pas mal. Ouais. Ah ouais. Ouais. D'accord. Bah merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre par rapport à cette remarque-là. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, vous? Clément, qu'est-ce que tu dis quand tu as quelqu'un qui te dit ça? Ouais. Tout à fait, ouais. Ouais. Je pense que c'est pas mal, en tout cas pour moi c'est une vraie question ouverte qui nous permet d'expliquer. Mais on a le champ libre lorsque pour moi quelqu'un fait cette remarque pour clairement annoncer l'évangile, quoi. Enfin, je trouve qu'on a vraiment un. Ouais, là on a un boulevard, c'est ça. On a toutes les portes qui sont ouvertes. On continue. Alors, donc là, c'est ce que j'ai proposé. Alors, illustrer. Alors, après, je vous ai. Voilà. Je pense que pour les musulmans qui sont très friands d'histoire, d'anecdotes, de paraboles, Si vous en connaissez quelques-unes, ça peut vraiment être pas mal pour montrer un petit peu, pour mieux expliquer notre foi en Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez certaines histoires. Alors, les histoires que je vais citer là, je vais vous les raconter, mais vous les retrouverez en fait sur un site que je souhaite que vous preniez tous en note, ce site internet. C'est un site très très bien, voilà, jesus-islam.fr. Ce site-là, c'est un fils d'imam qui a donné sa vie à Jésus et il est devenu pasteur. Et beaucoup des traités qu'on distribue, alors pas les traités de Valence en papier, mais d'autres traités, c'est grâce à lui qu'on les a. Il a monté un site internet pour justement pouvoir parler aux musulmans. Et c'est vraiment une mine d'or, ce site. Donc ce site-là, je vous encourage à tous aller dessus à l'occasion. Vous allez voir, sur le site, il y a questions les plus communes que les musulmans posent aux chrétiens, et il a une manière très pédagogue de répondre avec des images, des très bonnes, voilà, de très bonnes remarques. Donc, je vous encourage à avoir une ou deux histoires pour essayer d'aider la personne à comprendre. Surtout si vous voyez que quand vous commencez à lui parler de Christ, mort pour ses péchés, le salut, oui, mais Jésus c'est Dieu, mais en même temps c'est pas Dieu. Enfin, si vous voyez qu'il est perdu, je pense que c'est pas mal de lui raconter une histoire à ce niveau-là. Non, mais de toute façon, je la connais. Alors, l'histoire du viking, du roi viking, je vous la fais en abrégé. C'est donc dans un pays nordique, un roi décrète et très à cheval sur la loi. Hein, on sait dans son pays que si quelqu'un vole, c'est la peine de mort. Voilà. Et un jour, on s'aperçoit qu'il y a de l'or et des richesses qui disparaissent du coffre royal. Et le roi envoie son armée pour une enquête. Mais les vols continuent, ça ne s'arrête pas. Alors là, le roi est très strict et il dit là tout de suite, quand on aura le coupable, il sera flagellé à mort. C'est séance tenante quoi, quand on capturera le coupable. Et en fait, après enquête, les gardes apprennent que c'est la mère du roi qui vole l'argent du royaume. Tout le peuple se pose la question, mais qu'est-ce que va faire le roi? Il vient de décréter un jour avant que la conséquence du vol, c'est la flagellation en public et la flagellation à mort. Eh bien, le roi fixe une date pour l'exécution. Toute la cour est présente. Et il y a un bourreau qui vient pour exécuter. Et la mère du roi est attachée devant. Et lui, le roi, est à côté. Et le bourreau s'avance pour commencer à fouetter à mort. Et le roi dit « Attends ». Et le roi, il enlève sa couronne. Il laisse tomber ses atours royaux. Et en fait, il va prendre sa mère dans ses bras et la protéger en exposant son dos au bourreau. Et il dit au bourreau « Maintenant, tu peux exécuter la sentence. » Ça, c'est une très belle manière de montrer l'amour de Christ qui, se met à notre place, prend la punition à notre place. Donc, c'est une histoire qui peut vous aider pour, si vous sentez que la personne, le musulman, a du mal à comprendre la beauté du sacrifice, c'est exactement le genre d'histoire que vous pouvez raconter. Celle du juge, c'est un petit peu pareil. C'est quasiment la même chose. C'est effectivement un juge qui est très connu dans la région pour faire respecter la loi. De même, son fils a été arrêté parce qu'il il commettait des vols. Et le juge va, au moment où la sanction va être exécutée, le juge, en fait, il pose ses attributs de juge et il va dire « C'est moi qui vais payer la dette de mon fils. C'est moi qui vais payer la punition. » Donc, c'est le genre d'histoire qui peut être, qui peut vous aider. On peut avancer. Alors, parfois, quand on parle de Jésus, ils vont nous dire, pareil, encore une fois, ils vont dans notre sens, mais sans nous aider. Ils nous disent, oui, Jésus, c'est un grand prophète, nous aussi, on croit en lui, il est très bien, etc. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? Ouais, Clément? Ouais. Ouais. Très bien. Oui. Alors, et c'est ça. Parce que, en fait, dans l'île Jean coranique, il n'y a pas ça. Il y a d'autres. Jésus dit d'autres choses. Quand on lit les sourates de Mariam, c'est. Exactement. Voilà, ouais. Ils ont les souriates de Mariam, ouais. Ouais, j'avais pas entendu ça, mais ouais. Oui, c'est pour ça qu'ils considèrent comme c'est falsifié. Et ils disent que justement, après la révélation du Coran, eux, ils ont tout ce qui vient compléter. Ouais. Très bien. Ouais. Tout à fait. Non, c'est très bien. C'est ma réponse. Enfin, c'est l'une de mes réponses. Donc, ouais. Effectivement, il y a cette sourate-là, ouais. Alors, je ne l'ai pas mentionné pour cette réponse-là, mais pour une autre réponse, mais on peut l'utiliser à cet endroit-là, c'est très bien aussi. Ouais. On peut continuer. Merci Alain. Donc, effectivement, il y a des versets bibliques à lire qui sont vraiment très percutants, notamment la naissance de Jésus en 1 Luc 36. Alors, je sais, j'ai peut-être pas pris ma Bible. Non. Mais si vous avez vos Bibles, je vous encourage à l'ouvrir maintenant et à regarder, à prendre le temps de lire ce verset qui est quand même assez. Parce qu'ils parlent de la naissance de Jésus et eux, ils ont aussi dans les sourates de Mariam la naissance de Jésus. Donc c'est très intéressant de lire ce verset. Oui, s'il te plaît, Samuel, ouais, merci. Normalement, c'est ça, si je me suis pas planté. Oui. Ouais, continue. Oui. Voilà, merci. Et ça, c'est quelque chose. Ouais. Alors merci, je me suis trompé. Donc c'est Luc 1, 35. Donc là, effectivement, on a vraiment. Enfin, Gabriel, parce que eux, donc pour eux, c'est Djibril, mais c'est pareil. Ils ont aussi l'annonciation faite à Marie qu'elle va mettre au monde Jésus. Et quand ils lisent donc la sourate de Mariam, ils n'ont pas la mention où justement appelé fils du Très-Haut. Et ça, c'est très important. On a un verset vraiment à l'appui. Si effectivement la personne a du mal à croire que dans la Bible ça puisse être mentionné, bah vous avez ce verset-là à la clé qui est quand même très bien. Après évidemment Jean 3,16 vous connaissez, Jean 14 aussi, hein, Jésus qui affirme être donc le chemin, la vie et la vérité, et Jean 14, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. J'ai pas noté le verset encore, excusez-moi, j'ai fait mes notes un peu à l'arrache. 14,6, merci. Donc, ce sont des versets qui sont assez. En général, même lire. J'ai remarqué que lire même Jean 14, si vous avez le temps, c'est très puissant parce que vous avez vraiment beaucoup d'éléments qui vont montrer à voilà qui est Jésus. Et si la personne va dire oui, mais dans l'Injil, nanani, nanana, ça va pas, ça va pas. Vous pouvez ouvrir votre Bible en Ésaïe 53 et là vous avez vraiment beaucoup, enfin tout un tas de prophéties sur Jésus. Et si avant vous avez expliqué qui est Jésus, là vous allez vraiment faire écho à ce que vous avez dit au préalable. En montrant en Ésaïe 53 toutes les prophéties qui parlent de Jésus. Ouais. Tout à fait. Oh, ouais, je l'ai mise après en fait cette remarque-là, mais ouais. Exactement. Ouais. Ce que tu dis, Maxime, je suis tout à fait d'accord. C'était une remarque qu'on nous avait faite, c'est qu'effectivement, comme les Juifs ne croient pas en Jésus comme le Messie, si on arrive à leur faire comprendre que, à leur faire accepter que oui, mais même les Juifs dans la Torah, ils ont Ésaïe, ils ont laissé ça comme ça. Et ouais. En fait, pour les musulmans, les Juifs et les chrétiens ont falsifié ensemble la parole de Dieu, puisque forcément, il y a des contradictions. Ça, je vais vous en parler après de cette remarque-là. Qu'ont nos amis musulmans sur la remise en question de la Bible. On peut avancer. Alors, ça c'est pareil, ça va être assez riche aussi. Vous dites que Jésus est le fils de Dieu, mais Dieu n'a pas de fils. Ça, c'est, je vous en avais parlé tout à l'heure, le problème pour le musulman de comprendre qu'est-ce que c'est la Trinité, et je reconnais que parfois on a du mal à expliquer qu'est-ce que c'est la Trinité, mais là j'espère vous aider avec ce que je vais vous montrer après. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, sinon, avant que je vous montre le... Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui dit ça? Ouais. Oui. Exactement, ouais. Ouais, corriger la mention de fils, effectivement. Ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Ouais. Oui, ça peut marcher aussi, oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment intéressant. Bah, vous allez me dire ce que vous allez penser de mon schéma que j'ai piqué à Jésus-Islam, le site, parce que je l'ai trouvé très bien. On peut avancer, Alain. Merci. Alors, ce sera après. Alors, effectivement, voilà, expliquer que Jésus est venu au monde par le Saint-Esprit, donc c'est exactement ça, cassé avec le côté relation entre Dieu et Marie, relation sexuelle. Non, effectivement. Là, encore une fois, on peut s'appuyer sur 1 Luc 26 à 35 pour bien montrer que c'est Gabriel qui fait l'annonciation et que c'est tout à fait c'est fait par le Saint-Esprit, ce qui permet effectivement de commencer à parler du Saint-Esprit. Mais voilà, ce qui peut soulever d'autres questions après, je suis d'accord. Mais déjà, le musulman est rassuré sur le fait qu'on n'est pas en train de parler pas en train de blasphémer, quoi. Après, si on connaît l'anecdote du fils du Maroc, c'est pas mal. Donc, je vais vous la lire. Là, c'est pareil, j'ai tiré ça du site pour expliquer la notion de fils. Donc là, je cite exactement ce qu'il y a sur le site. Donc, un jour, j'ai demandé à un ami son pays d'origine. Il m'a répondu: « Je suis un fils du Maroc. » Voulait-il me dire que le Maroc s'est marié avec une femme pour enfanter? Non, absolument pas. Il voulait tout simplement me faire savoir qu'il était marocain, de la tête aux pieds, et qu'il emportait tous les traits caractéristiques. De même, lorsque la Bible affirme que Jésus est le Fils de Dieu, cela veut dire qu'il possède toutes les caractéristiques de Dieu. Le sens est beaucoup plus profond. On parle donc ainsi pour mettre. Alors ça, c'est après, c'est une remarque en arabe, donc ça, voilà. Mais effectivement, voilà, quand la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu, elle veut tout simplement dire qu'il est vraiment Dieu. Alors, on peut avancer. Alors, on peut avancer. Alors, effectivement, attendez. Oui, alors en fait, non, c'est, je l'ai mis dans, ouais, je l'ai mis après comme remarque. Donc là, enfin, je vous ai montré je vous ai montré un truc trop vite, autant pour moi. Donc, voilà, il y a peut-être des musulmans qui vont vous dire, oui, mais Jésus ne se déclare jamais comme étant lui-même le Fils de Dieu. Donc là, bon, je vous ai directement cité le verset. Alors pour vous expliquer le contexte, c'est un aveugle qui vient d'être soigné par Jésus et qui va voir ensuite les pharisiens et les pharisiens en fait, enfin, je sais plus comment ils lui répondent, mais en gros, donc cet aveugle retourne vers Jésus Et Jésus donc lui pose cette question, crois-tu au Fils de Dieu? L'homme répondit, qui est-il afin que je croie en lui? Et Jésus lui dit, tu l'as vu et celui qui te parle, c'est lui. Donc là, si vous vraiment voulez le verset clé qui montre que Jésus se déclare comme le Fils de Dieu, vous l'avez devant vous, c'est, je pense, un très bon verset à utiliser pour répondre à cette question. Ouais, je vais. En fait, j'ai mal fait mon truc, mais c'est un. En fait, à la question d'après, je vais répondre à cette question, mais enfin, vas-y quand même, ouais. Dis-moi. Ouais, tu peux revenir avant, là. Encore avant. Ouais. 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 Et au commencement, la parole. Ouais, ça c'est. Ouais. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ah, c'est pas mal. C'est le fait d'utiliser, ouais, par contre, le verbe et la parole, c'est vrai. Oui, pour les musulmans, Jésus, c'est ça, c'est le verbe. J'avais oublié ça. Très bonne illustration. Ouais. Alors on peut avancer. Et justement, je vais compléter ce que je vous ai dit encore un coup. Voilà. Alors effectivement, pourquoi est-ce que les chrétiens adorent trois dieux? Donc c'est encore une fois le, on reste un petit peu dans l'idée du musulman qui a du mal à accepter la Trinité. Et alors il y a différentes choses pour moi à être assez ferme pour justement répondre à ça à un musulman. Alors on peut avancer. Voilà. Donc effectivement. Être ferme sur le fait qu'on croit nous aussi en un seul Dieu. Il faut vraiment casser aussi cette image-là qu'ils peuvent avoir de nous qui croyons en trois divinités distinctes, qui pourraient intercéder l'une avec l'autre ou d'autres choses comme ça. On peut les rassurer si besoin en leur lisant dans Deutéronome 6,4. Voilà. Écoute, enfin Moïse proclame, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Donc ça c'est bon. Si vous sentez que le musulman il pense vraiment que nous chrétiens on a trois divinités. Alors effectivement, on peut aussi parler de la pluralité de Dieu. Alors ça j'ai été bluffé quand j'ai découvert ce verset, j'avais jamais remarqué. Mais effectivement, il n'y a qu'un seul Dieu, mais une pluralité de personnes, donc au sein de l'essence divine. Vous avez le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et vous avez un verset qui est, on l'a lu enfin moi en tout cas je l'ai lu 50 000 fois, enfin j'ai eu l'impression, mais j'avais jamais fait gaffe à ça. Donc qui est dans Genèse 1, 26 à 27, faisons l'homme selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. On a Dieu qui parle de lui à la première personne du pluriel. Il y a quand même quelque chose je pense, d'assez extraordinaire là-dessus qui mérite justement de faire remarquer à notre interlocuteur musulman, pour confirmer que même dans la Bible, on a bien cette notion-là dès le début de la Genèse, où Dieu est plusieurs. Sinon, ça, c'est. Ouais. Ouais, on peut utiliser. Après, bon, comme le musulman, ouais, je sais pas s'il va bien comprendre la notion d'église, mais par contre, là, voilà, je mets en illustration une image. Voilà, je m'appelle Eric, par exemple. Bah, mon corps s'appelle toujours aussi Eric, mais mon âme s'appelle aussi Eric. Pourtant, c'est bien deux choses distinctes, puisque mon corps est fait de chair et mon âme faite d'esprit. Enfin, en tout cas, n'est pas faite de chair. Donc, ça peut être un moyen aussi pour expliquer la. Disons pour peut-être voilà aider le musulman à comprendre ce point. Ouais. Alors peut avancer. Voilà, il y a aussi quand même un point important à se rappeler, c'est que nous, on est imparfait. Hein, on peut essayer, et c'est normal de chercher Dieu, on peut essayer de le comprendre par la même occasion, mais on ne peut pas non plus. Il faut essayer de ne pas non plus tout comprendre de Dieu. C'est presque. Enfin, c'est pas un blasphème, mais on va dire c'est un petit peu orgueilleux, quoi. C'est un petit peu orgueilleux de vouloir. Essayer de comprendre Dieu et raisonner Dieu, le mettre dans une boîte dont on peut définir les limites. Il y a un verset qui peut vous, enfin, qui est là par contre dans les psaumes, donc qui va intéresser notre interlocuteur musulman. C'est David qui, face à la grandeur et à l'intelligence de Dieu, qui dit donc une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Donc même David, reconnaissait lui-même ne pas pouvoir. Oui. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Je pense qu'il faut quand même ne pas passer à côté de ça. Il faut quand même rappeler à la personne que nous, on a dans la Genèse la pluralité de Dieu qui nous est montrée. Dieu est manifesté sous trois formes. Il y a plein de choses qu'on ignore sur Dieu, probablement, même si on en connaît peut-être les attributs principaux, qui sont l'amour, la perfection et la justice. Mais voilà, faut rester aussi un petit peu humble, je pense. Enfin voilà, je pense que c'est important de parler de ça. Alors on peut avancer. Voilà, ça c'est le schéma dont je vous ai parlé, que j'ai trouvé vraiment bien. Alors si vous regardez au centre, vous avez Dieu, ce qu'il est, en trois endroits. Donc il est le Père, il est le Saint-Esprit et il est le Fils. Maintenant, si vous regardez tout en haut et que vous prenez le Père, vous voyez bien que le Père n'est pas le Fils à gauche. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Ça peut être. Enfin, si vous comprenez un petit peu ce schéma, je pense qu'il est exact, bibliquement. Enfin, vous me direz. Mais je trouve il peut permettre de bien comprendre comment distinguer, enfin, comment expliquer la pluralité de Dieu à un musulman, en lui disant que, en rappelant encore une fois, hein, en prenant l'exemple, voilà, bah moi j'ai un corps, j'ai une âme, les deux ça s'appelle Eric, pourtant c'est bien dissociable. Bah de même, Dieu, il est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quoi. Après, en général, les musulmans restent bloqués sur le fait que Jésus, qui serait Dieu, qui serait venu sur terre en tant qu'homme, mais c'est pas possible parce que s'il vient en tant qu'homme, il va perdre une partie de sa divinité, parce que pour les musulmans, c'est ça aussi. Oui. Ouais. Ah, c'est intéressant, ouais. Oui. Et c'est ça fait partie du mystère de mais ouais. Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, s'il y a en plus un verset là-dessus, ouais, Maxime, juste après. Ouais. Sinon, Maxime, en attendant, qu'est-ce que tu voulais? Il est un peu dur à faire expliquer ce verset, hein, mais je le. Oui, alors, en tant que père, accepter le sacrifice du fils, c'est ça que tu. C'est balèze quand même à expliquer, mais c'est pas. Oui, c'est bonne remarque, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est une bonne remarque, ouais, j'avoue. T'as raison de préciser ça, ouais, c'est une bonne remarque, ouais. Tout à fait. Ouais, effectivement, on peut même citer des versets qui montrent Jésus priant le Père. Oui, Clément. Ouais. Ouais, c'est vrai. Là, ouais, c'est vraiment des pistes hein, que je vous donne. Mais comme vous participez, vous voyez vous-même. Enfin, moi, je trouve que vous avez d'excellentes pistes, pour certains même mieux que ce que j'ai mis. Mais c'est ça, c'est pour vous aider à avoir des réponses plus précises si vous voulez vraiment ouvrir la Bible. C'est pas mal. Mais ouais. Ouais, c'est vrai. De broder, ouais. Bien sûr. Alors, ça va bientôt être fini, hein. Alors, la Bible, voilà, donc là, la fameuse question qui recoupe un petit peu tout ce que vous m'avez dit, le musulman qui va nous dire oui, mais la Bible, elle a été falsifiée, etc., etc. Aïe, c'est normal, on a parlé de Jésus qui est le Fils de Dieu, on a expliqué la Trinité, on a parlé de tout un tas de choses qui sonne difficilement à l'oreille de l'interlocuteur musulman, donc forcément on va tomber à un moment donné sur cette remarque. Donc je sais pas qu'est-ce que vous avez à... Bon, on en a déjà cité, hein, Maxime a parlé tout à l'heure de la sourate, là je suis d'accord, c'est même ce que j'ai mis. Est-ce que vous avez d'autres versets ou alors d'autres remarques ou des idées par rapport à ça qui vous viennent à l'esprit si on vous reproche ça? Oui, Francis. Ouais. Oui. Ouais. C'est une très bonne remarque, ouais. C'est ça. Eux, ils vont essayer de dire oui, mais nous, c'est le dernier, c'est arrivé en dernier, donc c'est la bonne version parce qu'elle est arrivée en dernier. À ce niveau-là, j'ai un petit quelque chose pour vous qui. Bon, l'histoire, c'est pareil, hein, c'est pas facile à retenir, mais l'essence de l'histoire que je vais vous raconter va peut-être vous aider à remettre un petit peu en question. Mais je suis d'accord avec toi, hein, Francis, c'est l'idée aussi de dire, mais attendez, pour vous, ce que vous dites, quand vous nous dites que la Bible est falsifiée, bah, moi, ça me choque, je suis désolé, j'ai foi en la parole de Dieu, ça peut pas être. Donc, ça, c'est une très bonne remarque, ouais. Est-ce que quelqu'un a une autre... Ouais, Clément. Ouais, effectivement. Alors, ouais. Oui. Ouais. Bon, tu triches, toi, t'étais avec moi à Montreuil, t'as entendu Hicham. Oui. Non, effectivement, tout à fait. Alors ça, c'est ce que j'ai vu. Ils disent que la version originale aurait disparu et que nous, ce qu'on a, les juifs et les chrétiens, on a une version falsifiée. Effectivement, c'est pas mal de remettre la balle dans leur camp. C'est intéressant de. Effectivement, ouais, c'est pas bonne. Alors là, on peut y aller. On peut continuer. Voilà. Donc, il y a aussi une. Ouais, désolé, j'ai pas trop synthétisé. Non, mais bon, là, en même temps, je peux pas vous donner juste sourate de Jonas 10:94. Vous allez pas ouvrir les Corans, donc voilà. Je pense que j'ai préféré vous le présenter. Alors, effectivement, comme l'avait dit, je crois que c'est Maxime. Ouais, il y a des sourates qui encouragent le musulman à. Ouais, il y a pas que celle-là, mais celle-là, moi, j'ai mis la plus connue. Enfin, en tout cas, voilà, une connue qui donne, qui encourage le musulman à travers l'encouragement que Mohammed donne aux siens, mais d'avoir confiance dans les gens du livre, donc nous. Donc la sourate de Jonas, effectivement. Voilà, et si tu, donc en parlant à Mohammed, es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux, donc juifs et chrétiens, qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, t'es venu de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Donc effectivement, il y a vraiment quand même un appel. Si tu as un doute sur ce que nous avons fait descendre, c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que bon, voilà, il y a quand même une invitation à se remettre en question aux musulmans. Enfin, je trouve cette sourate qui est quand même très très parlante. Après bon, retenir une sourate par cœur, c'est pas évident. Alors Jonas, ouais, sourate de Jonas 10:94. Ouais, ça doit être ça, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, exactement. Bon, je vous, encore une fois, hein, je vous encourage, quand vous aurez le temps, à aller sur le site Jésus-Islam. Vous allez retrouver quasiment, voilà, 70% de tout ce qui est là. Hein. J'ai pas, j'ai été puisé sur ceux qui ont fait un excellent travail. Donc, vous aurez même plus de détails en allant sur ce site. Après, effectivement, ouais, merci. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a un peu dit. Voilà, montrer qu'on a l'assurance que la Bible n'est pas falsifiée. Et aussi, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est effectivement de, quand on à ce moment-là dans la discussion, il est possible qu'on ait parlé déjà un petit peu de certaines choses concernant Jésus, concernant le péché, concernant le Saint-Esprit qui transforme nos vies. Et ben, je pense que ça peut être pas mal aussi, ça peut être un tremplin pour donner son témoignage, parce que je vais en parler après, mais donner son témoignage c'est extrêmement important pour quand on aborde un musulman, son témoignage de conversion, et justement faire, on va dire, il y a des choses en fait dans votre témoignage qui vont mettre en avant, qui vont confirmer ce qu'a dit Jésus, ce qu'a fait Jésus, et ça va peut-être toucher au-delà du côté théologique ou débat théologique qui est en train de se mettre en place, ça va peut-être faire revenir la personne à se dire ah c'est vrai qu'humainement parlant, il a l'air de vivre quelque chose de différent, ça a l'air de correspondre à ce qu'il dit. Voilà, enfin, je pense que c'est un bon moyen pour revenir à son témoignage. Après, effectivement, donc encore une fois, je parle du site Jésus-Islam pour vous, mais franchement, encouragez votre ami musulman à aller sur ce site. Moi, je l'ai déjà montré dans le cadre de mon travail à un collègue de travail. Je lui ai dit, tiens, bah voilà, il y a ce site. On a parlé un petit peu avant. Je lui ai montré le site. Ah, il a vraiment trouvé ça intéressant. Il a commencé à regarder, à cliquer, à regarder un petit peu les différentes questions que posent les musulmans habituellement aux chrétiens et à regarder les réponses qui étaient proposées dans le site. Le site est très accueillant, très bien fait. Donc c'est, voilà, si vous n'avez pas la réponse à une question quand vous êtes en discussion avec un ami musulman, bah vous pouvez l'encourager aussi. Vous lui dites, bah écoute, je reconnais, j'ai pas la réponse là. Ta question est pertinente. J'ai pas cette réponse, mais je sais que sur ce site-là, il y a tout un tas de questions qui sont parce que même s'il va peut-être pas retrouver la réponse qu'il veut en allant sur ce site, il va déboucher sur plein d'autres choses très intéressantes qui vont encore une fois recentrer sur Christ. Donc c'est ce site-là, il est là, il est fait pour évangéliser, pour toucher le cœur d'un musulman. Donc c'est vraiment une chose très bonne d'encourager un musulman à aller sur ce site. Vous lui dites, tape sur Google Jésus-Islam. C'est quand même facile à retenir et le premier site qu'il va trouver, ça va être le bon. Donc voilà. Après, comme on a un petit peu parlé Clément, si on connaît un petit peu l'histoire des manuscrits de Qumran, on peut parler de ça. Voilà, expliquer les différentes. Alors voilà qu'on avait donc la Septante grecque, donc c'est la Torah qui a été recopiée. On a aussi les textes massorétiques, donc les textes qui ont été recopiés de moines, enfin grâce au travail des moines qui vient confirmer la Septante, plus les manuscrits qui ont été trouvés dans les grottes de Qumran, tout ça, donc c'est pour montrer la cohérence de la Torah, l'Ancien Testament, et pour le Nouveau Testament, on a énormément de, donc on a tout ce qui sont les lettres des pères de l'Église, qui lorsqu'ils s'échangeaient des lettres citaient la Bible, citaient le Nouveau Testament, et on peut reconstituer, on a presque deux sources bibliques pour confirmer aussi le Nouveau Testament. On a énormément de choses qui prouvent la crédibilité de la Bible. Après, pour parler de ça, je pense qu'il faut être vraiment un petit peu connaisseur et assuré, parce que c'est on peut rapidement s'en mêler les pinceaux. Moi-même, je suis pas non plus, je m'aventurerai pas trop là, mais c'est très intéressant. Si on a le temps de se demander mais qu'est-ce qu'on a comme source, et là si vous tapez manuscrit de Qumran, vous allez tomber sur des choses vraiment intéressantes. Ouais, Clément. Ouais. 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 Voilà, du Moyen Âge, donc c'était les textes massorétiques, les fameux textes. Ouais. Voilà. Oui, ça doit être ça, oui. Je l'ai pas noté, mais ouais. Oui. Ouais. Voilà, la Septante et les textes massorétiques, ouais. Merci pour ouais, merci Clément pour cet éclairage. Ça rend la crédibilité à Ésaïe 53 qui prophétise la venue de Jésus. Et ouais, c'est ouais. Mais pas que, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Si, alors j'ai un petit doute sur ce que je vais vous dire, mais pour vraiment aussi en remettre une couche, c'est que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est vraiment l'écrit, enfin ce sont les écrits où on a le plus de sources au monde pour n'importe quelle œuvre, et largement en tête. Si je me trompe pas, je crois que le deuxième, c'est l'Iliade, je crois, de l'Odyssée. Enfin, et il y a quoi, il y a même, je sais plus, il y a à peine un millier de, même, je suis même pas sûr, ou quelques centaines d'exemplaires. Ah merci. Bah voilà, vous avez, ça c'est quand même quelque chose à savoir. En tout cas, ça peut aussi vous encourager à avoir foi en la Bible, encore plus parce qu'il y a aussi toutes ces preuves historiques. Bon, on peut avancer. Voilà. Alors là, de ce fait, en général, le musulman va nous dire oui, mais bon, ok, la Bible, mais moi, je comprends pas pourquoi vous croyez pas dans le Coran, quoi. C'est la dernière version. Et là, parler du Coran. C'est difficile. Alors, oui. Ouais. Ouais. Alors, effectivement, j'ai vu ça. Ouais, j'avais pas vu ça en détail. Mais j'ai vu ça qu'effectivement, il y avait les versions traduites qui n'étaient pas autant crédibles que justement le. Ouais. 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 C'est intéressant, ouais. C'est intéressant de. Ouais. Après, faut. Bon, pour s'aventurer là-dedans, faut être rassuré comme toi. T'as une bonne. Je pense que t'as une bonne. À ce niveau-là, une bonne remarque à faire. C'est. Ouais. Un petit. Peut-être effectivement une petite complication pour le musulman s'il veut être honnête de bien comprendre sa parole. Mais bon, faut. Faut faire gaffe à la tête que va. Enfin, à ce qui va se passer derrière, mais. Parce que non, mais bon, certains musulmans sont quand même très proches de la parole, donc ils ont peur de. Oui, c'est pas faux. C'est non, mais c'est intéressant de réfléchir là-dessus. Après, faut aussi connaître un petit peu en langue. C'est vrai que ça, c'est pas du tout mon. Et sinon, donc, quand on. Est-ce que vous avez d'autres idées pour répondre à cette question? Si un musulman vous dit, mais pourquoi vous croyez pas dans le Coran? Ouais. Ouais. Exactement, oui. Je pense que ça peut être un bon moyen. Enfin, je pense qu'il est important de ne pas avoir peur de montrer que vraiment en Jésus, tout est accompli. Il y a même un verset que vous connaissez, quoi. Enfin, Jésus en expirant, voilà, tout est accompli. Alors c'est dans Luc, hein. J'ai pas noté le verset, je viens de me rappeler. Mais vous pouvez réexpliquer encore une fois enfin, Jésus, il a pris notre péché à la croix. Ça veut dire qu'il est mort à notre place pour la punition que nous on mérite. Mais il est ressuscité d'entre les morts, donc il a vaincu la mort. Donc le mal est vaincu. Enfin, tout est accompli, quoi. Il y a quelque chose qui est quand même. Je pense que ça peut être pas mal de remettre une couche là-dessus. Après, il y a une pareil tirée du site Jésus Islam. Il y a une histoire qui est pas mal à si on la retient ou on en retient l'essence, ça peut être pas mal de la raconter. On peut y aller. Alors effectivement, donc ah oui, je vous ai même mis. Voilà, bien exposé la victoire de Christ, Genèse 3:15 et Nouveau Testament. Donc vous connaissez la parabole, enfin la parabole, le verset, pardon, avec la prophétie de donc que Dieu donne à Adam et Ève sur effectivement par rapport à la descendance de d'Adam et Ève qui écrasera la du ta, enfin écrasera du talon la tête du serpent. Ouais. Ouais. Pour eux, il n'y a pas le péché original, il n'y a pas la chute, quoi. Ouais, c'est ce que j'avais dit au début, c'est que pour eux, Adam et Ève, ils ont péché, ok, mais Dieu leur a pardonné. Donc c'est bon, on repart à zéro. Le premier bébé, enfin là, Cain et Abel, quand ils sont arrivés au monde, bah ils arrivaient avec 10 sur 20, c'est-à-dire il faut qu'ils essaient de gagner leur salut par eux-mêmes. Ils sont purs, il n'y a pas de problème, quoi. Oui, on peut reparler de l'accomplissement de la loi, ouais. Tu as raison, on peut revenir sur Exode 20 pour rappeler les 10 commandements. Le musulman va être d'accord avec ça et lui montrer ensuite les versets où Jésus dit, je suis pas là pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi, et expliquer que la loi reflète les standards de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu attend de l'homme, et que Jésus, lui, en venant sur terre et par sa vie, a montré qu'il respectait exactement ces standards-là et qu'il est donc le sacrifice parfait. C'est tout à fait vrai, ouais, exactement. Je suis d'accord. Après, ouais, les musulmans, par contre, croient en la loi mosaïque. Enfin, ils sont d'accord avec les 10 commandements. Et voilà, même si dans la loi coranique, ils ont d'autres interdictions et d'autres permissions qui sont différentes de ce qu'il y avait dans la Torah. Mais malgré tout, ils sont très à cheval sur la loi. Et pour eux, dès qu'on transgresse la loi, il y a un péché. Sauf que ce péché-là doit être compensé par une bonne action. Après, ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Donc, ils espèrent que ce qui va compenser va être suffisant pour gagner le salut. Ouais. Alors maintenant, effectivement, il y a une histoire qu'on peut raconter, enfin, Hicham nous a raconté ça, j'ai trouvé ça génial. Donc je vais vous la lire. L'histoire du banquet et des lettres. Donc un père au Royaume-Uni avait un fils étudiant dans une université en Amérique. Pour ses congés du semestre, son père voulait l'inviter à assister à un grand mariage de famille. Conscient du coût élevé des billets d'avion, le père avait décidé de lui offrir les billets d'avion. Il lui envoie donc une première lettre qu'il informe donc de son intention d'acheter le billet et de le lui expédier par la poste dès que possible. Il ne devait donc pas se faire de soucis pour le billet, qu'il ne pouvait de toute façon pas s'offrir parce que très cher. Il n'avait qu'à attendre celui qui lui enverrait ce billet d'avion. Ensuite, dans une seconde lettre, il lui répète sa promesse. Patiente encore un peu pour attendre ma prochaine lettre, dit le père au fils. La billetterie n'est pas encore ouverte. À l'arrivée de la troisième lettre, le fils l'ouvrit et y trouva le billet promis, avec la mention « Surtout, n'oublie pas le billet ». Donc, bien sûr, les billets, tout est nickel. Le fils était tout joyeux et emballé par la perspective de ce voyage. Mais voilà qu'arrive un nouveau courrier. Dans cette quatrième lettre, il remarque une chose surprenante. La signature au bas semble bien être celle de son père, mais le contenu n'est pas de son écriture. Il lui est dit notamment que son billet n'est plus valable, qu'il doit le jeter et en acheter lui-même un nouveau avec son propre argent. À présent, que doit-il faire? Est-ce qu'il doit ignorer les trois premières lettres et suivre les instructions de la quatrième? C'est pas possible, il y a un doute, il y a quelque chose qui colle pas. Donc c'est un petit peu osé de raconter ça, mais je trouve ça quand même je trouve ça quand même très très puissant. Pour montrer aux musulmans qu'il y a quand même une incohérence dans le Coran, s'ils croient dans tous les livres, pourquoi est-ce que le Coran est si décalé par rapport aux autres livres? Voilà, c'est. Et là, on peut rebondir à ce moment-là sur donc la Genèse 3:15 avec la prophétie, enfin les prophéties qui parlent de Jésus et qui annoncent comme Jésus qui viendra pour en tant que rédempteur de l'humanité. Voilà ce que je vous propose comme histoire. Encore une fois, c'est pareil. Cette histoire-là, vous la retrouverez sur Jésus-Islam. Ça va être voilà. Vous pouvez vous l'approprier, la lire. La... on peut avancer. Alors voilà. Alors ça c'est quelque chose que j'ai rajouté personnellement parce qu'effectivement, certains musulmans vont vous dire que la musique pour eux est péché. Alors effectivement, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est que, on le retrouve plutôt dans la Sunna, donc dans les écrits de Mohammed. Et en fait, il est considéré que pour un musulman, la musique qui divertit seulement, hein, toute la musique qu'on peut écouter, je sais pas, aller danser en soirée ou les choses comme ça, pour eux, c'est péché. Donc ça, c'est si effectivement vous invitez un musulman au concert gospel, il peut vous dire oui, mais moi, je suis musulman, pour moi, la musique, c'est péché ou ça m'intéresse pas ou etc. Donc comment vous répondriez à ça par rapport à bon vous l'avez peut-être pas eu cette remarque mais si vous l'aviez comme ça si un musulman vous dit oui mais pour moi la musique c'est un péché ouais. Ouais ouais tout à fait c'est ouais je suis d'accord avec ça j'ai entendu Francis dire David. Voilà, c'est un peu incomplet, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Effectivement, il y a un psaume de David où David encourage à adorer avec les instruments. Ouais, Maxime. Ah oui, alors ça, je sais pas si on peut utiliser ça pour les mettre en porte-à-faux, mais c'est, oui, t'as raison. C'est vrai qu'ils chantent toujours le Coran quand ils le lisent, ouais, effectivement. C'est lié à la réponse de, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, voilà, on peut mettre la réponse, Alain, parce que là, vous avez, pour moi, cité... effectivement, eux, ils n'ont pas de problème avec ce qui est caractère religieux. J'ai relu, enfin, en tout cas, j'ai été sur plusieurs sites islamiques, et il y a bien marqué qu'effectivement, la musique est un péché, si elle n'est que pour se divertir, mais une musique liée à tout ce qui est caractère religieux, adoration, louange, il n'y a pas de problème. Donc ça, on peut rappeler. Alors effectivement, on peut leur faire lire aussi, donc il y a quelques versets sympas, il y a 2 Chroniques 7-6... Donc les prêtres se tenaient à leur poste, ainsi que les lévites, avec les instruments fabriqués en l'honneur de l'Éternel par le roi David, pour célébrer l'Éternel en chantant « Oui, sa bonté dure éternellement », d'après le cantique que David leur avait transmis. Ou alors psaume 98:5 « Chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe au son de tous les instruments ». Voilà. Si vous n'avez pas de remarques, on peut avancer. Voilà, alors quelques recommandations, effectivement. Je pense que le plus important, en tout premier, c'est le témoignage de conversion personnelle. Parce que le musulman, il a ses connaissances, il a aussi sa culture. Sa culture fait qu'il a une manière, on va dire, assez... il est empressé de répondre au débat que vous lui présentez. Si vous lui présentez des opportunités, il va débattre avec vous, ce qui peut être une bonne chose dans tous les cas pour au moins exposer qu'est-ce que c'est l'évangile. Ça c'est de toute façon, je pense, primordial, puisqu'il faut que la personne puisse entendre l'annonce de la bonne nouvelle pour qu'elle puisse y croire. Sinon, même si ça la met sur le coup quand vous allez lui annoncer que Jésus, etc., c'est le Fils de Dieu, que le péché, il est nécessaire de se repentir de son péché et que l'accès au paradis est certain en Jésus-Christ, mais n'a aucune chance d'aboutir simplement par les œuvres. Eh bien, c'est incontournable et il faut, je pense, malgré tout l'annoncer. Autant il est vraiment bien de revenir à son témoignage pour montrer qu'est-ce que ça fait d'être chrétien et essayer à travers donc plus que des explications théologiques de lui montrer même à travers votre attitude, votre écoute, vos sourires, votre patience, votre je sais pas, vraiment votre personne, tout ce que Dieu peut faire en vous qui va lui montrer, sans, au-delà du dialogue, que vous êtes quelqu'un de différent, vous vivez quelque chose de différent, parce que Dieu a changé et a transformé votre vie. Et je pense que si vous avez... je pense que vous avez quasiment tous fait une fois déjà ce travail, mais essayez quand même de vous entraîner à être capable de raconter votre témoignage en 5 minutes à peu près, en essayant de rien oublier, de rien rajouter, mais pas non plus de, enfin voilà, de faire quelque chose de concis, mais de bien clair, pour montrer à votre ami musulman qu'il y a quelque chose de différent en vous, que au-delà de peut-être de suivre des rituels, vous il y a la relation avec Dieu qui est importante pour vous, elle vous transforme, et que vous n'avez plus envie de pécher, parce qu'effectivement il y a quelque chose, ce qu'a fait Jésus à votre place vous a transformé. Et ça, je pense que c'est important que la personne voie votre transformation. Enfin, tant que faire se peut, je sais que c'est pas évident, mais en tout cas, voilà, il y a peut-être des exemples, des anecdotes de votre vie que vous pouvez raconter en plus de votre témoignage pour je sais pas, montrer à la personne que, enfin, depuis que vous êtes, enfin que vous avez, que vous croyez en Jésus, vraiment vous avez, je sais pas, vous avez envie de rendre service aux autres, de passer du temps pour les autres, vous avez plus le même regard sur le monde qu'avant, il y a des tentations, vous avez pas envie de rester dans les tentations, vous avez la victoire, quand vous avez un moment difficile, vous priez, vous sentez un bien-être, il y a des choses que vous pouvez dire en plus de votre témoignage comme ça qui peut vraiment toucher le musulman. Donc effectivement, j'ai fait un petit rappel aussi, mais voilà, notre rôle en tant que, vous serez mes témoins, hein, comme nous dit Jésus, on est là pour témoigner et non pas convaincre, quoi. C'est le travail de Dieu, hein, de convaincre la personne. C'est nous, notre rôle, c'est effectivement de témoigner et après derrière de prier pour la personne. Et ça, je vous encourage vraiment à avoir cette attitude-là. Tous les gens là que vous avez rencontrés ces deux derniers jours, gardez les noms des gens avec qui vous avez parlé, mettez-les dans un cahier et priez pour ces gens-là. Déjà, ça va vous donner de plus en plus de possibilités de passer du temps avec Dieu dans la prière. Et en plus de ça, vous savez pas ce qui se passe derrière, mais Dieu, il agrée les prières de foi. Donc quelqu'un qui a, Seigneur, je te prie qu'ils se convertissent. Je sais que j'ai foi que tu puisses le faire. Bah, ayez des prières comme ça pour les gens à qui vous avez parlé. Et si vous avez même des occasions de faire des contacts, c'est vraiment très bien. Par exemple, si un musulman vous pose une question, vous n'avez pas la réponse, c'est l'opportunité de lui proposer de garder un contact. Ah, ta question est très bonne. Écoute, j'ai pas la réponse. Est-ce que ça te dérange si je te l'envoie par mail? Est-ce que je peux prendre ton mail? Est-ce que je te donne mon mail? C'est vraiment bien. Ça veut pas forcément dire que vous allez avoir 50 amis après la semaine d'évangélisation musulmans à qui il faudra absolument répondre et autres. Mais simplement, vous avez la possibilité par mail de, je sais pas, de renvoyer, ah tiens, il y a ce site là qui est intéressant, hop, vous mettez l'islam, enfin bref, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire par mail, et prendre des nouvelles et autres. Vous allez montrer aussi votre amour, enfin l'amour que Dieu manifeste en vous, en continuant à garder contact avec la personne. Alors évidemment, pour une fille, garder contact avec des femmes, c'est quand même vraiment recommandé, parce que encore plus dans la culture musulmane, ça peut être quand une femme vient aborder un homme, quand elle est seule et que l'homme est seul, là l'homme peut vraiment croire qu'il s'agit d'une demande. Une demande, même peut-être pas en mariage, mais pas loin. Donc, les femmes, essayez de garder contact avec les femmes et les hommes avec les hommes. Mais c'est vraiment ce que je vous encourage. À l'église de Montreuil, il y a quelqu'un qui est à l'église depuis pas si longtemps. Bah, c'est parce que Timothée a suivi, il a fait du suivi avec lui, et maintenant il est baptisé, il vient à l'église régulièrement, etc. Enfin, c'est le contact, c'est vraiment quelque chose de très important. Et en tout cas, Timothée, je pense qu'il va peut-être vous en reparler demain, mais c'est voilà, je vous encourage. Je voudrais vous encourager par là, au moins à prier pour les gens à qui vous avez parlé pendant la semaine, les noms dont vous vous souvenez. On peut avancer. Voilà. Alors comme l'avait dit Clément, effectivement, rassurez-vous, hein, vous serez pas en face de d'imam à chaque fois que vous allez croiser un musulman. Non, il y a des musulmans qui connaissent très peu le Coran. Il y en a certains qui sont de tradition musulmane, mais qui connaissent pas. Ouais, Christophe. Ouais. Voilà. C'est vrai que s'ils sont musulmans par transmission orale. Faut être rassuré par rapport à ça, c'est-à-dire que vous allez avoir des musulmans qui vont pas forcément dire les mêmes choses. C'est comme nous, vous avez certaines branches parmi les chrétiens, entre les catholiques et les protestants, par exemple, il y a quand même des points très importants qui nous différencient. Ben, vous allez avoir des musulmans qui ne vont pas forcément bien connaître le Coran. Voilà, ne soyez pas effrayés forcément de tomber sur quelqu'un qui va vous dire « Oui, mais dans Deutéronome 18, il y a Mohamed qui est prophétisé, etc. » Et là, vous allez le regarder, vous ne savez pas quoi vous lui dire et autres. Donc, rassurez-vous, laissez le Seigneur agir à travers vous. Et justement, si vous avez une question piège, ben vous dites, bah écoutez, vous m'avez posé une bonne question, merci pour cette question, ça va me donner à réfléchir, est-ce que je peux vous renvoyer la réponse par mail, etc. Le musulman, il va être surpris, ça va le toucher que vous avez à cœur de, bah, d'être humble, d'être honnête, de pas essayer de broder une réponse. Donc c'est, voilà, c'est, je vais vous rassurer par rapport à ça aussi. Alors effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut, enfin, moi je conseille d'être quand même assez clair sur la justice et la sainteté de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'effectivement, pour nous, Dieu, il est en même temps parfaitement amour, mais parfaitement juste. Ça veut dire que les péchés que qu'un musulman va se dire bon bah moi je sais que Dieu peut me pardonner s'il veut, nous on n'est pas d'accord là-dessus. Pour un chrétien, Dieu il se souvient de tous nos péchés. S'il les oublie, c'est parce que Jésus est mort à notre place et que on a choisi de se repentir et de croire que Jésus est bien il est bien mort à notre place pour ça. Donc ça veut dire que hein, on est d'accord que toute la colère de Dieu qu'il a sur les hommes, elle a été reportée sur Jésus. Il y a bien eu une sentence, il y a bien quelqu'un qui a pris, qui a payé. Et ça, il faut être clair sur le fait que pour nous, chrétiens, Dieu est parfaitement juste, c'est indissociable. Donc c'est pas, il peut pardonner comme ça. L'anecdote à utiliser là-dessus, c'est encore reprendre l'histoire du juge et dire, par exemple, vous dites à votre interlocuteur, vous lui dites, bah écoutez, monsieur, c'est comme si, par exemple, je poignarde votre fils, et là on va en jugement, on passe en jugement parce que j'ai tué votre fils. Donc moi j'arrive devant le juge et le juge il regarde mon casier judiciaire et puis il regarde un petit peu aussi tout ce que je lui ai dit oui monsieur, bon vous avez tué le fils de cet homme, cependant c'est vrai que vous êtes un homme de prière, vous donnez beaucoup d'argent aux pauvres et vous avez un sens de l'hospitalité qui est vraiment très très bien. Ah, il s'en est fallu de peu, mais vous êtes sauvé. Hein, vous n'êtes pas inculpé pour le crime du fils de monsieur. Bah là normalement votre interlocuteur musulman il va vous dire ah bah oui c'est injuste. Et bah c'est là où on va lui dire bah oui effectivement le juge il peut pas juste parce que la personne elle a fait quelques bonnes actions, oublié le péché et vous derrière vous êtes pour vous c'est injuste quoi. C'est donc ça expliquer vraiment que non Dieu il se souvient de tous nos péchés et d'où la nécessité du salut en Jésus. Voilà, si vous avez effectivement, bon, comme Jésus parlait à travers l'évangile en parabole, les histoires, les images pour raconter, par exemple pour le péché et les bonnes œuvres, il y a une image qui est très sympa à utiliser. Vous pouvez expliquer, par exemple, vous pouvez dire, bah voilà, je prends un verre d'eau, hein, l'eau est pure, l'eau est propre et buvable, je rajoute du poison dedans. Donc là, l'eau devient empoisonnée. Mais maintenant, si je prends une carafe d'eau pure, hein, et que je rajoute de l'eau, bah ok, je rajoute de l'eau pure, mais il y a toujours le poison qui est dans le verre. Donc c'est pas en rajoutant de l'eau pure que je vais enlever le poison. Donc c'est pas en faisant des bonnes actions que je peux enlever le péché et le faire disparaître. Voilà, c'est une image que vous pouvez utiliser. Ouais, je crois que j'ai tout dit, Alain. Voilà, alors après, moi ce que je vous encourage aussi, c'est alors poser des questions. Parce que tout ce que je vous ai dit par rapport aux musulmans, c'est on va dire une base, mais comme je vous l'ai dit, il y a des musulmans qui vont avoir des croyances différentes et faut pas hésiter à leur poser des questions un peu comme ça. Mais comment est-ce que vous êtes devenu musulman? Et là, il va vous dire ah bah oui, mais c'est parce que mes parents sont musulmans, etc. Donc ça va, vous quand vous allez dire que vous avez à un moment donné choisi, ça va être intéressant. Enfin, vous voyez, il y a des choses qui vont pouvoir les faire réagir. Est-ce que vous êtes déjà intéressé à notre religion? Voilà, comment vous pouvez leur demander comment est-ce qu'ils se font pardonner? Comme ça, ils vous réexpliquent et vous pouvez vraiment rebondir sur ce qu'ils pensent par rapport au pardon et au péché. Vous pouvez rebondir dessus de manière très très précise, parce qu'ils vont pas forcément avoir tous la même. Même si en général, ils vont expliquer ça, hein, qu'il faut faire des bonnes actions. Voilà. Pareil, très important. Est-ce que vous êtes sûr d'aller au paradis? Et effectivement, quand la personne va vous parler, elle va forcément reconnaître qu'elle n'est pas certaine d'aller au paradis. Et justement, d'ailleurs, un musulman, quand il va parler de Mohammed, il va rajouter quelque chose derrière parce qu'il souhaite que son prophète aille au paradis. Mohammed reconnaissait lui-même ne pas être sûr d'aller au paradis. Ça, c'est très important pour nous de leur parler de notre espoir énorme, notre espoir assuré. On est certain qu'on va au paradis parce que toute notre dette a été payée. Et après, si vous avez un doute sur les piliers de l'islam et que vous savez pas comment aborder la discussion, par exemple, vous pouvez lui demander « Ah, mais c'est quoi déjà les piliers de l'islam ?» Puis il vous réexplique. Puis à partir de ce qui vous explique des piliers de l'islam, vous pouvez entamer la discussion, par exemple. C'est un bon moyen aussi de le laisser vous expliquer un petit peu comment il voit les choses. Ouais, Clément? Ouais, c'est vrai que j'aurais pu la mettre en top. Ouais, très bonne approche. Ouais. Effectivement, ouais, je l'ai pas bien mis en valeur, mais je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que c'est quand même primordial. Mais autant effectivement on parle des péchés, ouais, autant on parle du péché qui est lavé grâce à Jésus, mais c'est surtout ça mène au salut. Enfin tout ça, cette histoire de péché qui est pardonné, ça mène au salut, et ça c'est un gros problème pour le musulman, c'est comme on l'a dit, il est pas sûr d'aller au paradis. Et encore une fois, comme il est dit que en l'homme il y a la pensée de l'éternité, la volonté de vivre après la mort, je pense que le Seigneur peut faire résonner ça. Quand vous allez lui dire, mais vraiment, moi j'ai cet espoir-là, je vais vous le partager. Je suis certain d'aller au paradis, mais je voudrais vous partager comment. Eh ben, la personne, le musulman, peut être touché par cette assurance que vous avez dans le fait d'aller au paradis. Oui. Oui. Ouais. 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 Voilà, il faut se repentir. Ça, c'est vraiment le premier point, se repentir. Mais croire au fait que Jésus soit mort à notre place, ça, c'est nous donne l'accès sûr et certain au paradis. Ah oui, il y a probablement un problème, ouais. Pour moi, il y a un problème. Non, tout à fait. Mais par contre, le fait de parler de ça à un musulman, je suis d'accord avec toi, il va certainement pas nous croire. Il va certainement se dire en lui-même, mais comment est-ce qu'il peut être sûr, mais il invente. Mais malgré tout, ça va, le Seigneur peut utiliser ça, cette peur d'aller en enfer, ce doute qui, mais c'est marrant, lui, il a l'air vraiment de vivre, il a l'air d'être assuré quand il parle, il y a quelque chose, c'est bizarre, il a vraiment cet espoir-là d'aller au paradis. Ça, le Seigneur peut faire travailler ça dans le cœur du musulman. Et j'aime bien justement avoir des phrases pas forcément méchante, mais un peu choc, un peu incisive, pour montrer la différence et ne pas... Ouais. Ouais. Oui, inversé à la clé, c'est encore tout à fait. C'est toujours les musulmans en général sont très très encouragés quand on ouvre la Bible devant eux, quand on leur propose en tout cas d'ouvrir la Bible, s'ils ont le temps, ils vont tout à fait être d'accord. En général, ça va pas du tout les ah non non, je veux pas ouvrir. Non non, si au contraire, ils vont être ouais Maxime. J'étais pas là ce matin. Quiconque? Ouais. Ouais, très bon. Bah, ouais, bon verset à garder aussi en tête. T'as raison, tout à fait. Oui. Il y a peut-être un contexte pour ce verset-là. Mais oui, après, c'est parler aussi du chrétien tiède. Mais bon, là, c'est plutôt pour nous à nous remettre en question par rapport à qui sommes-nous vraiment, est-ce qu'on est, voilà. Mais pour un musulman, en tout cas, lui, enfin, ne pas hésiter à vraiment lui parler de l'assurance qu'on a dans le salut, et lui, voilà, faire résonner ça et lui, enfin, voilà, le mettre en porte-à-faux par rapport à lui, ses doutes et au fait que même Mohamed n'avait pas du tout l'assurance d'aller au paradis, quoi. Non. Ah oui, voilà, après, ouais. Merci. Ouais. Merci. Effectivement, il faut. Ouais. Après, le problème, c'est qu'on est obligé de parler un peu d'élection dans ce cas-là. Ce qui n'est pas forcément évident non plus. Non? Ah oui, d'accord. Dans ce sens-là, ok, j'avais cru que tu. D'accord. Que tu voulais dire que c'est pas nous qui. Enfin, qui nous choisissons nous-mêmes à. Enfin, ok, non, j'avais cru que tu parlais d'autre chose. D'accord. Ok. Bon. Je crois que c'est. Terminé. Vas-y Alain, juste pour les sources, voilà. Si ça vous intéresse de, voilà. Enfin moi je préfère ne pas faire genre que c'est moi qui ai pondu tout ça, donc je vous mets les sources de ce que j'ai. Ouais non c'est ouais. Donc je sais pas si vous avez des questions, des remarques ou des choses à partager. Oui. Tu veux que j'aille chercher des trucs? Ah, alors oui, effectivement, on a quoi? On a un livre marron qui s'appelle Bien plus qu'un charpentier. Qui, alors ça, c'est un focus sur Jésus ou je me souviens plus ce que c'est. Ah oui, voilà, il y a français et arabe, donc c'est vrai que c'est pas mal pour ceux qui lisent l'arabe, c'est préférence. On a quoi? Les Nouveaux Testaments, alors c'est Luc, c'est ça? Des Nouveaux Testaments en entier, les quatre. Ah oui, non, t'as raison. On a aussi des livres noirs. Voilà, on a donc les livres marrons, bien plus qu'un charpentier, donc pour parler de Jésus en français et en arabe. On a des Nouveaux Testaments en arabe noirs. Les couvertures sont, ouais, je crois, fond noir avec un coucher de soleil, qui sont, ouais, tout le Nouveau Testament. Merci Maxime de me rappeler ça. Ouais. Il nous reste pas grand-chose de. Non, c'est vrai que là on n'en a pas. Bon, ouais, aux gares, dans les gares, on en a vu aussi. C'est. Mais en général, ils savent lire le français. Enfin, en tout cas, les musulmans qu'on rencontre ici. Enfin, bon. Ouais. Des évangiles de Matthieu en français, tu veux dire ou? Ouais. Oui, c'est ce que tu m'avais dit en début d'après-midi. Et on a ça, Clément, ou pas? Ou ils sont pas déballés? C'est moi qui. Oui. Ben, là, on n'a peut-être pas ça, mais c'est. C'est une bonne remarque pour la prochaine fois, ouais, au pire, ouais, c'est vrai. Oui, là vous allez vraiment rencontrer une majorité de musulmans qui lisent très bien le français. Bon, ils sont peut-être pas tous nés en France, mais bon, déjà, il y a une génération qui est passée. Je pense qu'il y a quand même. Vous tomberez vraiment sur une grande majorité, ouais, de gens qui lisent très bien le français, donc il n'y a pas de problème de littérature particulier, je pense. Ouais. D'autres remarques ou. Oui. Ouais. Ok. Bien, merci. Merci pour cette remarque. Oui, chez les musulmans aussi, oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à reposer les mêmes questions en s'attendant à des réponses un peu différentes. Ouais. Ah oui, non, là j'avoue que là j'ai qu'une source de. Ouais, je vois ce que tu veux dire aussi. Effectivement. Mais après, il faut connaître. Enfin, il faut lire, quoi. Il faut avoir une bonne bibliothèque. Ouais. En Afrique, ce que je peux te dire, c'est que déjà l'islam en Afrique est assez différent de l'islam d'Afrique du Nord. En Afrique centrale, il y a un mélange de. Mais bon, c'est un petit peu le problème africain, c'est qu'ils font du fétichisme, du. Donc c'est. Ouais, du. Ouais, il y a des pratiques culturelles qui se sont mêlées à la religion islamique et t'as effectivement certains, je crois que même certains pays musulmans d'Afrique du centre qui sont vus par les musulmans comme étant des musulmans un peu, bon, pas tout à fait, voilà. Mais c'est, et ça, c'est des différences culturelles, ouais. Alors là, là, moi, je saurais pas dire, mais. Ouais. Est-ce que tu veux prier, ouais, Samuel?